Mesdames, Messieurs, bonjour, c'est Jacques et jusqu'à la demi, vous écoutez le Mac du Tarn sur CFM Radio. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la Nuit des Châteaux qui se déroule ce samedi partout en France, un samedi soir. Plus de 200 demeures historiques, maisons classées, ouvrent leurs portes au public autour aussi de propositions culturelles diverses et variées. Et sur notre territoire, c'est le Grand Écuyer de Cordes-sur-Ciel qui ouvre ses portes. On en a parlé la semaine dernière avec son propriétaire Eric qui est venu un peu expliquer les raisons de la participation à cette Nuit des Châteaux. Et aujourd'hui, je vous propose de faire connaissance avec la start-up qui est à l'origine de cette Nuit des Châteaux. C'est la troisième édition cette année et elle a lieu non seulement en France, mais dans d'autres pays européens aussi. Et cette start-up s'appelle D'Artagnan. Émilie Genebeuf, la directrice de communication, est mon invitée en seconde partie de ce magazine. D'ici là, on passe un moment avec Paul Sanda de la médiathèque du pays Corday dans la chronique à lire, à voir et entendre où il nous intéresse à des œuvres disponibles à l'emprunt à la médiathèque de Cordes. On retrouve Paul Sanda après un peu de musique. Tonight.
Everybody's ever felt lonely, snap your fingers, everybody's ever felt.
The Real Sugar, c'était le groupe Deus.
CFM Corde, le mag.
À lire, à voir, à entendre.
À lire, à voir et à entendre. En partenariat avec le réseau médiathèque Corde Vaour.
À lire, à voir et à entendre.
À lire, à voir, à entendre.
I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.
Paul Sanda, de la médiathèque du Pays Cordais.
Deux fois par mois, il nous intéresse à quelques œuvres que l'on peut emprunter à la médiathèque de Cordes, où il nous informe et nous raconte aussi ce qui s'y passe. Et il, c'est Paul Sanda. Salut Paul.
Bonjour.
Merci d'être là avec toi. On va s'intéresser à un CD de musique plutôt du Moyen-Âge, à un livre aussi. C'est un livre illustré dont tu vas nous parler dans un instant. Mais tout d'abord, je voudrais que l'on revienne sur le festival Contes en Balade qui s'est terminé au début de ce mois par un spectacle notamment au théâtre du Colombie avec Patrick Ewen. C'était des contes de Bretagne, ou en tout cas un univers breton que vous proposiez.
Oh oui, oui, alors c'était effectivement, c'était le dernier spectacle. Après, il y a eu une balade comptée le lendemain pour achever, mais en fait, c'était vraiment le dernier spectacle en salle, dans un théâtre. Et Patrick Ewen, bah ouais, il a été absolument extraordinaire. Alors, il nous a emmenés dans les brumes profondes de la Bretagne centrale. C'était pas la Bretagne de la mer, c'était plutôt la Bretagne du cœur celtique.
Mmh.
Et ça fait un tabac. Alors, on a rempli le théâtre
et
ça a même débordé parce qu'il y a entre 30 et 50 personnes qui n'ont pas pu rentrer. Ce théâtre est toujours trop petit quand on fait les choses, il faut pousser les murs,
on se tient au chaud, il faut pousser les murs pour la prochaine édition.
Ben voilà, on craignait un peu, on s'est dit avec le pass sanitaire, etc. Et puis voilà, on avait tort parce que finalement les gens sont venus avec test ou vaccin, en tout cas ils étaient là et c'était vraiment un succès de à la fois de musique, de conte et d'humour
et de rencontre aussi
extraordinaire. Voilà,
et bien on prend note et rendez-vous pour l'année prochaine. Le festival Contes en Balade, c'est toujours fin du mois de septembre et début du mois d'octobre, organisé par toutes les équipes des médiathèques et bibliothèques départementales du Tarn-et-Bétien. On va filer maintenant dans les rayonnages de la médiathèque de Cordes, dont tu as extrait le volume 3 de Prince Valiant, un livre dont tu nous parles maintenant.
Oui, alors ça c'est absolument, c'est un trésor. En fait, on a la chance, je dirais, que les éditions Soleil, éditions de bande dessinée, rééditent depuis quelques temps des titres, des premiers titres de la bande dessinée des années 40, des années 50, et en particulier pour le plus connu Tarzan, donc dans des versions très très diverses d'ailleurs, dans plusieurs versions originales. Et là, Prince Valiant, c'est un très grand classique des années 40, des années 30, la fin des années 30 et début des années 40. Donc on est vraiment au début de la bande dessinée, enfin voilà, depuis Winsor McCay au début du 20e siècle, fin du 19e siècle, le début de la bande dessinée. Et alors, ces bandes dessinées absolument extraordinaires, d'une beauté folle. Il faut bien penser que on n'est pas encore à l'invention de la bulle.
Mmh.
Donc c'est en général ni à l'éclatement de la planche, c'est-à-dire que en fait
c'est très angulaire quand même là.
C'est plus qu'angulaire. Il y a généralement, enfin, chaque plan. Mais alors il faut imaginer des grands formats, très 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 belles comme les bandes dessinées aujourd'hui. Ça paraissait plutôt dans des revues, des journaux à l'époque. Hein, donc en général 9 cases. Voilà, 9 cases. Il n'y a pas de fioriture. Alors, des fois, il y a 2 cases conjointes. Ça fait une case plus grande. Mais sinon, c'est toujours ces 9 cases. 3, 3, 3, en fait. Ça, voilà. Et puis, aucune bulle, mais que des textes, en sous-titres, finalement, de chaque image. Donc, c'est pas encore de la bande dessinée déliée, comme ça, avec le dialogue, etc. C'est une bande dessinée sous-titrée, on pourrait dire, quelque part.
Donc un format plutôt, on va dire, standardisé du début de la bande dessinée qui
exactement.
Commence.
Exactement. Ça correspond peut-être en poésie, à ce qui se faisait au XVIe siècle ou au XVIIe siècle. C'est-à-dire qu'il y avait des contraintes. Mm-hmm. Et là, il y a une contrainte de mise en page, une contrainte de texte, etc.
Par contre, c'est en couleur.
Ah, c'est magnifiquement.
C'est bien coloré.
Magnifiquement coloré. Mmh. Et puis, donc, c'est ces images qui s'imposent. On va dire que c'est. Il n'y a peut-être pas le mouvement qu'on trouve dans la bande dessinée de maintenant, qui est un peu découpé comme du film, etc. Là, on est plutôt toujours dans des images plaquées qui sont décrites. On dirait que c'est des tableaux. Mmh. Enfin, sorte de tableau, comme ça, juxtaposés, qui racontent des histoires. Alors, Prince Vaillant, ça se passe au Moyen-Âge. Dans un univers avec des. Lui, il vient du Nord, c'est un prince viking, si on veut, et il découvre le monde de manière absolument onirique, enfin, dans l'imaginaire. Alors, ça mélange l'histoire et l'imaginaire.
Et l'imaginaire, oui.
Donc, ce Hal Foster, il y en a deux, c'est pour ça que. Alors, celui-là, il s'appelle Harold de son vrai nom. Il est né en 1892. Donc, voilà, c'est vraiment un inventeur de la bande dessinée. Un des inventeurs de la bande dessinée, puisqu'il est né au 19e siècle, il est mort en 1982, il a vécu donc 90 ans. Et c'est un Canadien qui est mort aux États-Unis, en Floride. Donc il commence par faire cette bande dessinée. Alors, c'est très beau, on a l'occasion de découvrir en fait l'intégrale à la médiathèque, il y a plusieurs volumes magnifiques. Et on nous dit, il y a des articles à chaque fois pour analyser un peu le fonctionnement de cette œuvre, je devrais dire. Et voilà, alors là par exemple, je vois à la fin, ce qu'on en dit, en fait, on dit trop sensuel pour les catholiques canadiens, trop ennuyeux pour les dirigeants des syndicats, trop violent pour les amis des chiens américains, une galerie d'images supprimées de Prince Vaillant à partir de 1939 et 1940. Peut-être était une bande dessinée la plus censurée de son époque.
Donc c'est intéressant à regarder aujourd'hui.
Ouais, très encore intéressant. Plus. Et il y a toute la galerie de ces images qui ont été supprimées et de voir à quel point, c'est vrai, il y a une très grande sensualité, il y a une très grande exploration d'une intériorité psychologique. C'est très intéressant.
Le Prince Vaillant, l'intégrale à la médiathèque de Cordes, disponible à l'emprunt et disponible également à l'emprunt de la musique, on va dire médiévale. Il vient à chaque fois, Paul, avec des musiques que nous on ne passe presque jamais sur CFM Radio. Et aujourd'hui, c'est aux couleurs du Moyen-Âge qu'ils veulent nous faire ouïr.
Oui, alors à la fois parce que j'ai parlé d'une bande dessinée qui se passe plutôt au Moyen-Âge, et puis à la fois parce qu'il y a des membres de ce groupe aux couleurs du Moyen-Âge qui sont cordés. Et donc, c'est l'occasion de réécouter cette musique et tous ces disques qui sont à l'emprunt.
Spéciale dédicace à Yann Denio.
Absolument.
Io la che la omaggio, eri son benigno che era Jacquito, don muy maldito, temo que escrito y por mal vas.
Elle se joue aujourd'hui, mais c'est une musique qui nous parle et nous fait penser à hier, aux couleurs du Moyen-Âge. Un groupe de musique et de chansons, on va dire plutôt médiévale, hein, qui continue peut-être de se produire. Il faudrait qu'on pose la question à Yann,
ouais,
à
Yann de Lyon. Oui.
Je crois qu'ils sont venus déjà à Cordes pour l'effet du Grand Fauconnier.
Ah oui, je m'en souviens, c'était dans l'église Saint-Michel, il y a eu des concerts magnifiques.
Ouais. Aux couleurs du Moyen-Âge, un CD que l'on peut emprunter à la médiathèque de Cordes, tout comme l'intégrale de Prince Valiant, la BD que tu es venu nous présenter aujourd'hui, Paul, une BD qui nous replonge vers le début, on va dire, de la bande dessinée dans les années 30, les années 40. C'est en couleur. C'est plutôt dessiné aux adultes, là où...
Ah oui, largement.
Ouais,
mais c'est au rayon adulte. Hein.
Voilà.
D'ailleurs, il faut se rendre compte qu'il y a beaucoup de textes et que c'est pas si simple que ça à lire. Donc, il faut au moins un certain âge, peut-être des ados, qui redécouvriraient la bande dessinée. Il y en a, heureusement, encore, qui aiment ce genre d'exploration.
Eh bien, tant mieux. Merci, Paul, d'être passé nous voir. On te retrouve dans 2 semaines dans À lire, à voir et entendre, en partenariat avec les médiathèques du Pays Cordé.
Avec plaisir.
CFM.
CFM Radio.
CFM Cordes.
Essa moça tá diferente, já não me conhece mais. Está pra lá de pra frente, está me passando pra trás. Essa moça tá decidida a se super modernizar. Ela só samba escondida, que é pra ninguém reparar. Eu cultivo rosas e rimas, achando que é muito bom. Ela me olha de cima e vai desinventar o som. Faço-lhe um concerto de flauta e não lhe desperto emoção. Ela quer ver o astronauta descer na televisão.
Mas o tempo vai, mas o tempo vem, e ela me desfaz. Mas o que tem, que ela só me guarda a despeito, que ela só me guarda a desdém. Mas o tempo vai, mas o tempo vem, ele me desfaz. Mas o que tem, sem do lado esquerdo do peito, no fundo a linda me quer bem.
Essa moça tá diferente, já não me conhece mais. Está pra lá de pra frente, está me passando pra trás. Essa moça é a tal da janela, que eu me cansei de cantar. E agora está só na dela, botando só pra quebrar.
Mas o tempo vai, mas o tempo vem, e ela me desfaz. Mas o que tem, que ela só me guarda a despeito, que ela só me guarda a desdém. Mas o tempo vai, mas o tempo vem, e ela me desfaz. Mas o que tem, seu do lado esquerdo do peito, no fundo a linda me quer bem.
Essa moça tá diferente, já não me conhece mais. Está pra lá de pra frente, está me passando pra trás.
Mas o tempo vai, mas o tempo vem, e ela me desfaz. Mas o que tem, que ela só me guarda despeito, que ela só me guarda desdém. Mas o tempo vai, mas o tempo vem, e ela me desfaz. Mas o que tem, sem do lado esquerdo do peito.
Le samedi 23 octobre, c'est la nuit des châteaux, avec plus de 200 lieux qui ouvrent leurs portes au public en France, en Suisse, en Belgique et en Espagne également. C'est la troisième année que cette manifestation a lieu et pour la première fois cette année, il y a le grand écuyer de Cordes-sur-Ciel qui y participe. Et cette manifestation, on la doit à une start-up qui se présente comme étant les mousquetaires du patrimoine. C'est D'Artagnan, dont on parle avec Émilie Jane Boeuf. Bonjour Émilie Jane.
Bonjour, merci de m'accueillir ce matin. Ravie de parler de D'Artagnan.
Ah ben oui, vous êtes la directrice de communication et de marketing de D'Artagnan, qui est une plateforme dédiée à la préservation et du patrimoine matériel et immatériel, avec une pléthore d'activités et d'actions. Comment vous présentez D'Artagnan, Émilie Jane ?
Oui, bah c'est exactement ça. Vous l'avez bien résumé en une phrase. Donc, nous, notre mission, c'est vraiment de préserver le patrimoine et de sensibiliser également à sa préservation. Et pour ça, on a une approche assez innovante, finalement, à travers trois activités principales. Donc, une billetterie qui est 100% digitale. Et c'est dans ce contexte-là que s'inscrit l'événement de la Nuit des Châteaux. Et on propose aussi de l'achat collectif de châteaux. Donc là, le concept est assez simple. Ça permet à des milliers de personnes de devenir co-châtelains, donc d'acheter une part dans un château pour sauver des châteaux en péril.
Ouais.
Et puis notre troisième activité, c'est finalement du financement participatif. Donc on est aussi la première plateforme de financement participatif qui permet aux citoyens de préserver le patrimoine à travers du don. Donc on est vraiment sur ces trois activités assez qui permettent de préserver, de sensibiliser le patrimoine ces trois activités-là.
Bon, alors je vais vous taquiner en disant, vous avez forcément le 06 de Stéphane Bern, non ? Parce que...
C'est une très bonne question. Effectivement, on a pu échanger un petit peu avec lui, évidemment, puisqu'on œuvre quand même dans la même mission, pour la même mission. Donc, effectivement, nos activités sont très complémentaires.
Oui. Alors, il y a plus de 650 projets qui ont déjà été accompagnés par D'Artagnan. J'ai relevé sur votre site internet 12 millions d'euros qui ont été collectés pour la sauvegarde du patrimoine. Et si je parlais du patrimoine matériel et immatériel, c'est parce que vous soutenez aussi des festivals, des musées et même l'achat d'œuvres d'art, par exemple, par des collectivités. J'ai vu ça.
Oui, exactement. Donc, sur notre plateforme d'Artagnan.fr, on propose des multitudes de projets dans le patrimoine, comme vous l'avez dit, aussi bien dans l'art que dans les monuments. Ces projets sont partout en France. On en a quelques-uns également en Europe. Donc, c'est cette plateforme de financement participatif.
Ouais. Alors parlons de la Nuit des Châteaux que vous avez initiée en 2019 avec D'Artagnan. À l'époque, c'était une petite centaine de lieux et aujourd'hui, c'est pratiquement le double. Mais il n'y a pas que des châteaux qui ouvrent leurs portes au public, comme le laisse penser l'intitulé. C'est vraiment des maisons historiques, des maisons, je vais dire, importantes pour notre patrimoine qui sont ouvertes ce jour-là, ce soir-là.
Oui, exactement. La plupart des monuments sont quand même des châteaux, mais on a aussi effectivement toutes sortes de monuments qui sont assez iconiques dans leur département et qui ont une grosse valeur historique et culturelle et qui sont évidemment magnifiques et qui méritent d'être découverts par tout le monde.
C'est vous qui contactez les châtelains et autres propriétaires ou comment ça se passe ?
Oui, c'est une bonne question. Donc, on a une équipe qui s'occupe dédiée à l'accompagnement de ces châteaux, de ces propriétaires, qui s'occupe de les contacter en amont et puis ensuite de les accompagner sur toute la période de communication. Donc, réaliser leur communiqué de presse, les accompagner sur comment communiquer sur les réseaux sociaux, vraiment un accompagnement 360 degrés pour faire en sorte que l'événement soit un succès pour tout le monde, en fait.
Oui, donc là, l'événement, il arrive quelques jours après la journée européenne du patrimoine. Il y a quand même une similitude dans les deux actions. Qu'est-ce qui est différent là avec la Nuit des Châteaux ?
Oui, c'est une bonne question. Ce qui est différent, c'est que ces châteaux, la plupart des châteaux sont quand même ouverts pendant toute l'année. On en a seulement quelques-uns comme le Grand Écuyer, comme vous l'avez mentionné, qui vont ouvrir exceptionnellement pour ce soir-là. Je dirais ce qui est différent, c'est que c'est des événements qui sont organisés expressément pour la nuit des châteaux. Donc, ça va être vraiment des expériences nocturnes inédites. Par exemple, des visites aux flambeaux, des dîners aux chandelles, des spectacles, des concerts. Ou même, on a quelques porteurs de projets qui vont proposer des cluedos grandeur nature dans leurs monuments. Donc, c'est vraiment cette idée-là de découvrir ou de redécouvrir le patrimoine de façon ludique.
Oui. Donc, il y a aussi un côté convivial. Hein. C'est pas uniquement on vient assister à une conférence sur un lieu, mais voilà, on peut profiter avec un verre à la main, d'en savoir un peu plus. Ouais. J'ai vu qu'il y a de la musique pas mal là dans des lieux qui participent à cette nuit des châteaux. C'est ce samedi 23 octobre en France, en Suisse, en Belgique, en Espagne. Des lieux historiques et patrimoniaux ouverts au public en nocturne. Ça aussi, c'est à souligner parce que ça donne un charme particulier à tous ces endroits, et j'imagine que c'est aussi pour ça que vous avez choisi de le faire à ce moment-là, plutôt en soirée, quoi.
Oui, exactement. Les monuments sont habituellement fermés à cette heure-là, et puis les voir sans lumière et peut-être illuminés, ça rend vraiment l'expérience encore plus magique. Donc c'est l'objectif, oui.
Il y en a plus de 200 et ils sont tous recensés sur votre site internet, en tout cas le site internet dédié à cette manifestation, c'est nuitdeschâteaux.com, par lequel on peut réserver et payer en ligne sa place. Un acteur du patrimoine et de la culture, c'est D'Artagnan, et si moi j'ai un lieu éventuellement, comment est-ce que je fais? Si j'ai un projet à défendre, à quels critères il faut répondre et comment faire pour vous le proposer sur D'Artagnan?
Donc c'est une très bonne question. Si vous avez un projet à défendre, il suffit de vous rendre sur le site d'artagnan.fr et puis de nous contacter par l'adresse email qui est sur ce site-là, avec le détail de votre projet, et puis on sera ravis de revenir vers vous. On a une équipe aussi dédiée qui s'occupe de la même façon qu'on accompagne les monuments sur la nuit des châteaux. Il y a également un accompagnement sur les porteurs de projets
pour
la plateforme de financement participatif, et tout un accompagnement notamment lié à la communication, parce qu'il ne suffit pas de mettre un projet en ligne. Ensuite, il faut évidemment communiquer autour de ce projet au plus grand monde.
Oui, et quel que soit le profil, que ce soit un particulier, une association, une collectivité.
Exactement, exactement.
Très bien. Émilie Jenet, la directrice de communication et de marketing de D'Artagnan, les mousquetaires du patrimoine culturel, qu'il soit matériel et immatériel. Et le samedi 23 octobre, il nous convie à la nuit des châteaux partout en France. Pour nous, ici dans le nord de l'Occitanie, il y a le Grand Écuyer à Cordes-sur-Ciel qui sera ouvert pour l'occasion. Merci beaucoup Émilie Jenet d'être passée
un grand merci à
vous. Au micro de CFM Radio, et très bonne journée à toi.
Bonne journée, au revoir.
CFM.
CFM Radio.
CFM Cordes.
Bernard Andrieux, maire de Cordes-sur-Ciel et président de la communauté de communes du Corday et du Cos, sera mon invité dans le MAG du Tarn demain. C'est tout pour aujourd'hui, les infos arrivent.